stops you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, en direct et en public, du Bel Air, le bar de la maison de la radio, Muriel Joudé, Charlotte Garçon et Lucille Comeau. Nous allons parler donc, comme je disais à l'instant, de L'Époque de Mathieu Barrère, Le Seul à mon mariage de Martha Bergman, La Camarista de Lila Aviles. Il y aura un coup de cœur de Charlotte Garçon pour un livre qui s'intitule Rencontre au pluriel. Ce sont des textes qui sont réunis par Émile Breton d'entretien entre Luce Vigo et des cinéastes, tout cela paru chez Yellow Now. Et nous ouvrons cette dispute avec L'Époque de Mathieu Barrère. Après les attentats de Charlie Hebdo et jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, Mathieu Barrère et son preneur de son Thibaut Dufay ont sillonné Paris la nuit pour aller à la rencontre de jeunes noctambules en tout genre, pour essayer de prendre le pouls de notre époque. En tout cas, vu pour l'essentiel par de jeunes gens habitant Paris ou sa périphérie. On va débattre évidemment autour de ce film. D'abord, un premier tour de table, une phrase pour exprimer votre sentiment sur celui-ci, sentiment que vous développerez dans un instant. Lucille Comeau.
Moi, je suis assez partagée sur le film, que je trouve à la fois assez efficace dans son côté documentaire et efficacité politique, et pas très loin de la catégorie film branché, dont je me méfie.
Charlotte Garçon.
Moi, plutôt que branché, je le trouve plutôt animé d'une énergie qui ne serait pas électrique, mais qui serait assez de feu. Donc j'ai plutôt apprécié le dosage. Je suis d'accord, c'est toujours un peu dangereux, ce type de film politique, parce qu'on risque toujours de figer ce qui est vivant, mais à mon sens, il réussit.
Muriel Joudet.
Moi, j'ai vraiment vécu, alors je ne dis pas ça de façon péjorative, quoique un peu, comme un très long samedi soir, un peu même trop long, vous savez, quand les métros sont fermés et qu'on n'arrive pas à rentrer et qu'on doit encore faire la fête alors qu'on n'a plus trop envie de faire la fête.
J'étais pas du tout contre l'État ou anarchiste il y a un an. Et c'est à partir du rejet de la police que j'ai pu avoir une réflexion politique un peu plus large.
C'est quoi l'époque ? L'époque, c'est le son que ça fait quand tu prends un coup de matraque. Poc, poc, poc ! C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus.
Les adultes, ils nous projettent dans le monde dans lequel eux, ils vivent. Dans un monde qui sera pas du tout le mien dans 40 ans ou dans 30 ans. Et je me sens perdu.
Mais on continue les études, on est motivé parce qu'on sait très bien que sans les études, on est rien.
Non mais attends, crois vraiment que tu vas l'avoir dans 40 ans ta retraite ?
J'avais rêvé en gros que la France était tombée dans une hyper grosse dictature. Je m'étais impliquée dans la résistance.
On attend quelque chose, mais on attend quoi ?
Et tout ça, c'est le temps qui va te le dire en fait.
La haine, les combats, ça mène à rien du tout.
Va regarder, va apprendre, tu t'apprends d'où je viens. Après d'avoir un facho, tu seras pas atteinte parce que tu sais qui t'es.
Quand tu dis les Français ils sont pas contrôlés, ça veut rien dire. Moi je suis français, je me fais contrôler.
On est obligé de toucher à vos intérêts pour vous nous écouter. C'est triste d'en arriver là. Une démocratie, des mots, c'est le peuple. Démocratie, c'est le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas une seule personne.
Tu veux être fier de quoi ? Liberté pour qui ? Égalité pour qui ? La terre gronde. Bah ouais. Mais si tu savais comment j'ai le feu !
Les rêves, ils sont grands et tout est possible en fait.
L'époque de Mathieu Barrère, Lucille Comeau. Est-ce qu'il faut quand même décrire un petit peu le dispositif mis en place par Mathieu Barrère ?
Alors c'est un film qui ouvre sur une image de ciel nocturne avec une lune un peu nimbée de couleur violette avec cette musique qu'on entend là, la Folia de Vivaldi, qui revient de manière pour ponctuer les séquences. Et l'idée, c'est donc de se fixer comme contrainte, mais en fait, elles sont assez lâches, les contraintes, de filmer des jeunes gens qui ont tous entre 18 et 30 ans, à peu près, souvent de face, et de leur poser des questions. On entend parfois la voix de Mathieu Barrère en hors-champ poser des questions qui sont assez étonnantes. Des fois, c'est « qu'est-ce que c'est pour vous l'époque ?» Parfois, c'est « qu'est-ce que c'est votre rêve ?» Qu'est-ce que vous voyez demain ? Enfin, des choses assez larges, suffisamment larges pour ne pas contraindre les discours. Et donc, la forme, au final, est une sorte de galerie, encore une fois, assez large dans les rapports qu'elle opère entre les personnages. En tout cas, je pense que l'idée est de mettre vraiment à égalité des figures, des existences nocturnes qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir et ne se rencontrent pas, surtout.
Charlotte Garçon, c'est vrai que c'est quand même assez gonflé d'appeler un film l'époque, un film documentaire. Est-ce que le titre vous paraît juste ou trompeur ?
Oui, il le dit à un moment dans le film à l'une des personnes qui l'interview. C'est un titre qui fait peur à son producteur, déjà. Et pourtant, c'est ce titre qui lui a donné, qui a cristallisé pour lui l'envie de vraiment tourner. Et donc de passer quand même un nombre de nuits de sa vie pendant plusieurs années dehors. C'est quand même pas rien de rester éveillé, de trouver quelqu'un d'assez fou pour venir avec soi. Donc oui, moi je trouve que c'est justifié d'appeler cela l'époque, même si on attend un inventaire, même ne serait-ce qu'un inventaire générationnel, on sera sans doute déçu parce que, comme disait Lucille Comeau, c'est un nombre de portraits relativement réduit. Et moi, je pense qu'il cherche quelque chose aussi au montage. Donc avec sa monteuse Isabelle Proust, je crois qu'ils ont tourné 250 heures et finalement, le film, moi, ne m'a pas paru très long. Ça aurait pu faire un film fleuve. Il y a des formats comme ça qui nous sont un peu imposés au prétexte que, justement, c'est l'époque et qu'il faut absolument la restituer de manière fidèle. Et là, il y a des choix très tranchés. Donc je trouve ça très assumé de mettre l'accent peut-être plus sur une pulsation et un rythme, on l'entendait dans la musique, mais aussi au montage. Parfois, on sent bien que des gens ont parlé beaucoup plus longtemps et que non, c'est la parole est coupée, un peu comme chez le psychanalyste.
Je reviendrai sur cette dimension, pas tellement du psychanalyste que sur la pulsation. Mais à ajouter, le film se passe la nuit, il aurait pu s'appeler « Je veux du soleil » aussi, pour faire référence au film de François Ruffin, dont on a parlé ici il y a une semaine ou 15 jours, je ne me rappelle même plus. 15 jours. Collection de paroles revendicatives, on pourrait dire qu'il y a un projet qui finalement n'est pas si lointain.
Oui, non, c'est vrai. Ou alors plutôt je veux de la lune, mais bon, ça veut rien dire. Le précédent film de Mathieu Barrère s'appelait, arrêtez de rigoler, Nocturne. Il aurait dû s'appeler comme ça, je pense, parce que c'est vrai que ce titre est un peu sursignifiant et partagé un peu entre une veine pour moi, donc sursignifiante, un peu militante, mais d'un militantisme qui me paraît un peu confus. Moi, j'aime pas du tout la séquence devant la Cinémathèque française, donc qui était assiégée par des gens de Nuit Debout, et donc on a comme ça une ligne de CRS, et Mathieu Barrère va s'approcher de cette ligne, et va filmer un CRS en particulier, qui lui-même filme ce qu'il y a en face, donc on a une sorte de duel comme ça, entre deux caméras, qui se joue, et pour moi cette scène ne dit rien, ou en tout cas je ne comprends pas ce qu'elle veut dire, si ce n'est que quand même les CRS, c'est tous des pourris, ou que c'est bien fait pour les CRS, enfin j'arrive pas à comprendre.
Il y a un sourire quand même de la part du CRS.
Surtout il a le même âge que les gens qui filment par ailleurs de face, c'est au fond un des personnages.
Ah, c'est un miroir.
Pour moi c'est du militantisme confus, mais je préfère l'autre veine, qui est pour moi insignifiante, mais dans un sens presque pas du tout péjoratif, au sens où le film est un peu comme une sorte de poulet à la tête coupée, et va s'avancer comme ça dans la nuit, sans savoir ce que Mathieu Barrère va capter. C'est la partie accueillante du film, où il va se plonger dans ce Paris qui est vraiment filmé au début comme une sorte de vaisseau spatial totalement anxiogène. Pour moi, c'est ça, Paris, c'est quelque chose qui d'électrique, de très angoissant, et il arrive très bien à capter cette nouvelle pulsation parisienne où traverser à la fois par les nuits, les fêtes, les boîtes de nuit, la nuit debout aussi. Et j'aime bien que le film finalement ne dise rien, qu'on ne tire aucun discours du film, mais il est tenté aussi quand même d'en dire un, dans sa manière pour moi de filmer un peu les CRS, de filmer Nuit debout. Et je préfère quand Mathieu Barrère va filmer des jeunes complètement ou vraiment carrément alcoolisés ou même drogués, et que ces jeunes-là vont dire vraiment des bêtises ou des choses totalement insignifiantes ou sans intérêt. Et au milieu de ces bêtises, quelque chose d'une parole véritable, authentique, va surgir. Et pour moi, cette part insignifiante, hein, cette sorte de joli mais en état d'ébriété, m'intéresse plus que la phase militante un peu molle.
Moi, c'est un film qui me fait une impression durable et grandissante. En fait, ça fait 4 ou 5 semaines, je pense, que j'ai vu ce film, L'Époque. Au début de la projection, moi, j'ai craint, en mode Lucille Comeau, le film branché, superficiel. Et de fait, j'ai été saisi, et plus j'y repense, et plus c'est le cas, par effectivement cette pulsation qu'il y a entre des monologues. Il y a certes quelques questions, mais quand même, on a surtout des monologues assez denses, finalement, et pas toujours insignifiants. Il y en a quand même aussi beaucoup qui sont très denses. Et ces respirations musicales, ces moments où quand même le corps peut tout à fait se délivrer autrement de l'époque dans laquelle on vit. Et je trouve que cette alternance, elle est assez juste sur le rythme de la pensée même de la jeunesse. Et en ça, je trouve que la forme cinématographique rejoint parfaitement le fond du propos. Ça me paraît extrêmement pertinent. Et ça n'a l'air de rien, mais je trouve ça très, très fort, en fait. Marine Jodet, ça vous fait sourire?
Non, je souriais comme ça en l'air, mais non, c'est vrai
c'est
que...
C'est gentil.
Ce qui m'a frappé dans le film, c'est le côté « la nuit est un défouloir », le défouloir de la journée, et c'est un peu triste, en fait, et que ces jeunes sont complètement désorientés.
Pas seulement.
Mais il y a quand même un côté presque... c'est là qu'on récolte les déchets de la journée, c'est là que les gens vont transpirer, se défouler, se droguer, et puis la journée, on remet les costards, parce qu'on apprend que voilà, des jeunes de 18 ans, 20 ans travaillent pour des boîtes de pub sont dans des écoles de commerce, et que la nuit, c'est ce défouloir, mais il y a quelque chose de très triste dans cette idée que finalement, c'est là que... C'est le seul endroit où quelque chose peut se vivre, en fait.
Charlotte Garçon.
Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. J'ai perçu ce parti pris de filmer la nuit comme étant effectivement une sorte de plongée dans l'inconscient de cet imaginaire. C'est-à-dire que la nuit, effectivement, il y a une part de défouloir, il y a une part d'inversion de ce qu'on doit être socialement, du jeu social qu'on peut jouer, par exemple les étudiants de Sciences Po qui écoutent sagement des cours qui les emmerdent terriblement, comme ils le disent une fois qu'ils ont pris un peu d'alcool. Mais en même temps, pour moi, c'est une recherche formelle. C'est-à-dire que ce dispositif-là, il recueille aussi des choses différentes parce qu'on est la nuit. Et il faut peut-être insister sur la technique aussi qui est nécessaire, non seulement pour recueillir cette parole sans que les gens aient l'impression que c'est la télé, parce qu'en fait, il explique que tout le monde le prend tout le temps d'abord pour un journaliste, et donc c'est très très long de sympathiser et de comprendre, et aussi le dispositif de cette caméra qui va être à mon avis de plus en plus utilisée, qui est la Blackmagic Pocket, une caméra 4K, un petit cube en fait très très puissant, et qui donne quand même du point de vue de la couleur une richesse de vivacité alors qu'on est dans la nuit. Faut peut-être quand même dire que c'est pas du tout un film, quand vous dites que c'est un film poulet tête coupée qui avance, qui va dans tous les sens, qui sait pas où
c'est
il va,
c'est plastiquement très beau.
D'abord, au niveau du montage, c'est très travaillé, dans les liens entre les séquences, par motif, par rythme, etc. Et puis, d'autre part, oui, plastiquement, c'est une jubilation qui compense parfois l'excès de parole ou l'excès, la tentation que la parole se fige en discours militant. C'est toujours le problème.
Lucille Comeau.
Moi, je pense que le problème du film est ce qui donne une impression un peu d'inachevé, qui m'a vraiment, pour le coup, moi, c'est un peu l'inverse de vous, Arnaud. J'ai été saisie, je pense, par son énergie dans un premier temps. Aussi, je pense, par un effet totalement déformé d'identification, mais en fait, je suis beaucoup plus vieille que tous ces gens. Ça, je m'en suis rendu compte un peu plus
à
tard.
À peine.
Voilà,
Lucille,
j'ai mis
peine.
Un peu de temps pour m'en rendre compte.
Moi, beaucoup
non,
plus vieux.
En fait, je pense que Nuit debout est à la fois quelque chose qui bénéficie au film et qui lui enlève quelque chose, parce que c'est un tel contexte que là, la caméra de Mathieu Barrère, elle ne peut pas exactement se mettre au même niveau. Il faut filmer à la fois les policiers déjà et les gens qui occupent la place.
Mais ça dépasse très largement, Nuit debout.
Non, il y a ce personnage de Rose, par exemple, qui intervient au début, qui clôt le film, qui menace presque la structure de mise à égalité des personnages, puisqu'elle excède tellement les autres et le film même, parce que c'est un personnage d'un charisme incroyable, qui a une langue littéraire absolument inédite. Que je trouve entre... Il y a presque une contradiction entre le fait d'avoir choisi un fil rouge avec ce personnage-là et l'ambition totalement politiquement vraiment très passionnante de mettre à égalité une jeune DJ, les fameux bourges de Sciences Po qui se bourrent la gueule le samedi soir, et un jeune homme de Bobigny qui, je pense, pendant une manifestation pour Théo ou pour Adama, interpelle directement le pouvoir face caméra. Tout ça... En fait, à mon avis, n'est pas très abouti, justement, du point de vue du dispositif. J'ai l'impression qu'il manque une articulation. Et vous parliez du nombre. Moi, je pense que la pulsation est là, Mais la question du nombre de gens qui interviennent, elle se pose réellement. Elle se pose dans le film.
Oui, moi je pense que la présence de Rose, c'est pour moi le bémol du film, parce qu'effectivement, il n'a pas su suffisamment couper. Tout à l'heure, Charles Garçon, vous parliez de séances interrompues chez le psy. Moi, j'aurais préféré que cette parole soit plus rare, en tout cas. Charles Garçon.
Oui, ça, je suis d'accord. En même temps, elle est centrale. C'est une sorte de foyer ardent du film.
C'est un problème.
Qui prophétise ce que sera le film. On a l'impression qu'elle le programme. Elle nous dit déjà ce que c'est l'époque. C'est l'époque poc-poc-poc avec cette onomatopée. Et donc, comme si elle prenait possession du film, elle lui donnait une orientation. Mais il me semble que justement, ce mélange dont vous parlez, il est central pour montrer, on pourrait dire, l'intelligence de la révolte, ou en tout cas, que c'est, comment dire, qu'il n'y a pas d'opposition telle qu'on la croirait, et ça ferait vraiment vieux con de dire regardez, ils se saoulent, toutes les, donc ils peuvent pas penser. Et justement, le film nous montre le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de circulation entre ces états seconds, cet individualisme parfois acharné, ces discours sur soi, et puis le collectif. Il me semble que le film fait circuler ça. Justement, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était séparé. Et je peux me permettre de vous reciter une citation de Claude Lefort que Jean-Luc Godard citait et que vous avez vous-même cité dans la dispute de lundi consacrée à Jean-Luc Godard, et qui est « En faisant de la politique un domaine de pensée séparé, les démocraties modernes prédisposent au totalitarisme. » Et on pourrait, ça ferait presque programme, cette phrase de Claude Lefort, à savoir que justement, il essaye de cloisonner, puisque dans la nuit, il y a des classes sociales différentes, que ça se frotte, et que même quand on est au pire de sa débilité du samedi soir, on est dans un espace collectif. Et ça, je trouve ça assez, assez beau.
Aussi le comment ?
Oui, je suis d'accord. Il y a quelque chose de troublant aussi à ce que ce film sorte maintenant, alors qu'on est dans un autre mouvement que Nuit Debout, qui est extrêmement différent, qui est le mouvement des Gilets jaunes. Je reviens du coup à l'allusion que vous avez faite au film de François Ruffin. Parce que ce qui manque, enfin, c'est criant quand on voit le film aujourd'hui, c'est quand même une autre catégorie de la population. Parce qu'en effet, on filme la vie nocturne, mais on filme à Paris. Et
c'est pour
en banlieue.
Préciser, Paris, oui, et sa périphérie.
Et du coup, c'est très étonnant ce que ça crée de trous. Justement d'un point de vue politique et sociologique, et ça, je sais pas si c'est quelque chose de réfléchi ou pas pour les spectateurs, ou lui, enfin Mathieu Barrère, ce qu'il en fait, mais c'est une vraie question. Je pense que ça participe de mon sentiment d'incomplétude, même inconsciemment, dans l'imaginaire politique. Il y a maintenant une nouvelle entre guillemets catégorie qui n'existe pas dans le film.
Oui, comme le disait Charles Garçon, il en faut aussi de l'énergie pour sortir aussi souvent la nuit pendant 3 ans pour aller à la rencontre de celles et ceux qui...
Il s'agissait évidemment pas de...
Une semaine, on prend une voiture avec François Ruffin et on va à la plage. Muriel Joudet.
Non, c'est sur la débilité, parce que Charlotte... Non, mais
j'ai un petit peu dérapé.
Non, mais c'est parlons-en, parce que c'est juste pour dire que moi, cette débilité m'intéresse beaucoup. C'est ce qui, pour moi, dans le film, fait documentaire, fait enregistrement. C'est-à-dire, quand on voit le Joli Mai, ce qui frappe, c'est ces jeunes couples...
Le film de Chris Marker.
Voilà, qui ont 20 ans et qui très spontanément, vont parler face à la caméra. Et voilà, cette spontanéité, on va pas dire débilité, spontanéité, fait que une parole se cherche en direct et qu'une petite meuf en école de commerce va... Au début, sortir des banalités, des clichés sur ce qu'elle fait. Et puis progressivement, ça va commencer à devenir intéressant. Elle-même va accéder presque à un niveau de pensée devant nous qui est passionnant. Et les préjugés qu'on pouvait coller sur elle, d'un seul coup, s'effritent. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi cette parole. C'est que la bêtise aussi produit de la pensée, qu'on passe de la bêtise à la pensée, de la pensée à la bêtise, en permanence, et c'est jamais figé.
Lucille, comment ?
Mais c'est très romantique, en fait, comme idée. D'ailleurs, dans le fond, c'est quand même un film très romantique.
C'est pour Godardien. Ça que je l'aime autant.
Non, mais très, très collage à la Godard, parce qu'on voit aussi des fragments de graffiti.
Il y a des archives aussi, c'est vrai.
On voit la vitrine d'une grande marque de chaussures de sport qui a comme slogan « La révolution ne s'arrête jamais ». Ça fait mal, ça fait mal. Et ça, il le voit. C'est-à-dire que c'est ce nivellement-là des discours, y compris la récupération perpétuelle dans laquelle on vit tous. Donc, on la connaît, mais... elle est quand même mise en scène de manière assez virtuose et je pense quand même très inspirée par Godard.
Mais vous voyez, moi, cette discussion avec vous me donne envie de revoir l'époque de Mathieu Barrère.
Est-ce qu'on peut signaler que dans une nouvelle revue de cinéma qui s'appelle Débordement au pluriel, le numéro 1, il y a un très long entretien croisé entre Mathieu Barrère et Mariana Otero et un collectif de filmage qui s'appelle Les Scotcheuses. Donc c'est pour ça qu'il explique vraiment comment il a fait pour... faire parler les gens, comment il les a tous retrouvés pour faire signer des autorisations. Enfin, c'est assez passionnant, quoi.
Bah, on va lire Débordement, en plus d'aller voir L'Époque de Mathieu Barrère, qui est sorti ce mercredi. À suivre dans la dispute, Seul à mon mariage, La Camarista, et puis un autre livre, Rencontre.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au cinéma pour parler à présent de Seul à mon mariage de Martha Bergman. Ce soir, on n'a que des premiers longs métrages qui nous arrivent. Non, d'ailleurs, c'est faux.
De fiction.
Alors, mais non, ça marche pas. Martha Bergman, c'est son premier long métrage de fiction. Elle a fait, elle, des documentaires. Enfin, ce sont les premières fois. Dans les trois cas.
Oui, voilà.
C'est pas mal.
Non, ça marche pas pour moi.
Pourquoi ?
Parce qu'il a déjà fait un film avant, un documentaire.
Un long métrage ?
Non, un moyen.
Bon.
Ok, merci. Je vous l'accorde.
Merci beaucoup, Marie-José, vous êtes trop bonne. Bon, elle a signé, Martha Bergman, plusieurs documentaires, notamment sur les communautés roms. Cette réalisatrice qui est née à Bucarest, qui s'est formée à l'INSAS, à Bruxelles. Elle signe donc son premier long métrage de fiction. On est d'accord, Muriel ?
Oui, c'est bon.
Parfait. Allez, premier tour de table pour résumer vos impressions sur ce film, justement, Maël Jodet.
Pour moi, c'est une fuite en avant. Enfin, il y a trois parties dans le film. Une fuite en avant, une pause et puis reprise de la fuite.
Chaud, garçon.
Un voyage au pays des hommes qui prennent des douches.
Lucille Comeau, c'est très très bon ça. Faites mieux, Lucille. Là.
Une bonne surprise.
Bon.
Bah, vous m'avez dit de faire court, moi je fais court. Hein.
Bon, c'est
Bon, Muriel, c'est encore à vous le point de départ scénaristique du film pour arriver jusqu'aux hommes qui prennent les douches.
Pour moi, le point de départ, c'est un peu devenu un genre, ou plutôt un cliché de cinéma, c'est le portrait de la femme libre, de la femme voilà, incandescente, indépendante, qu'on ne va pas réussir à tenir, que le cinéaste, ou la cinéaste en l'occurrence, ne va pas réussir à tenir. Et pour moi, ça donne lieu à beaucoup d'automatismes dans le cinéma en général, puisque finalement, la fuite devient presque une mécanique. Et Martha Bergman donc prend cette jeune Roumaine qui habite vraiment dans une sorte de cahute près de Bucarest et elle vit avec sa grand-mère et sa petite-fille et du jour au lendemain elle va décider d'abord elle va s'inscrire dans une agence matrimoniale, elle va rencontrer simplement par Skype un Belge et puis du jour au lendemain elle va s'enfuir en Belgique où elle va s'installer chez ce Belge. Et pour moi, c'est là la partie la plus intéressante du film. C'est-à-dire, à partir du moment où la fuite s'arrête, où le film se pose, c'est là que Martha Bergman arrive vraiment à déjouer ce qui, pour moi, est de l'ordre de l'automatisme. D'abord, d'une part, en... Je m'arrête ?
Ah, il faut... Non, c'est le point de départ scénaristique. On va entendre la bande-annonce et puis vous développerez votre point de vue sur ce film après, Marielle Jodet.
Je veux un bărbat care să fie, cum să spun eu, să facă duș, să fie curat, în francez. Ei sunt aia cei mai mișto așa de treabă. Te iau frumos așa. Nu de ăștia, te ajută în casă.
Acum stai liniștită, noi aici îi triem pe toți. Clienții noștri sunt oameni foarte serioși. Cu avere.
Doamnă, să nu cumva să dau de, cine știe, de proxenez de ăștia de la televizor.
C'est pour moi.
Bruno. Bonjour. Je vais apprendre école. Il est là.
Il comprend pas.
Bonjour.
Voilà. Je l'ai rencontré sur internet.
Ah ouais. Pervers.
Tu causes du braid.
Un venu se gasser sur un bol, pas sur un maricieux.
Parle français, toi.
Cartable, fenêtre, l'amour. Toujours l'amour.
Seul à mon mariage de Martha Bergman. Donc, pas mal de documentaires avant, un premier long métrage de fiction. Du coup, Charlotte Garçon, la question se pose quand un documentariste passe à la fiction. Est-ce que ça nourrit bien, trop, mal sa première fiction, en l'occurrence pour Seul à mon mariage.
Écoutez, je me rends compte que je dois être la seule autour de cette table à avoir vu Sléjani, son film de 2004, son film documentaire qui était à Cinéma du Réel, mais je m'en suis aperçue plus tard, j'avais un petit peu oublié. Effectivement, je trouve que le portrait, pour le coup, est assez... et d'une justesse dont on peut imaginer qu'il est nourri, elle est nourrie par une connaissance. Alors d'abord de la communauté rome une fois en Roumanie, notamment ce petit groupe de musiciens qui entoure la grand-mère, puisque la grand-mère à un moment prend une petite importance avant de disparaître dans le film, puisque elle chante dans un bar et elle chante une chanson qui s'appelle Seul à mon mariage justement. Et donc cette petite communauté de musiciens, dans mon souvenir, c'était ça le sujet de ce documentaire assez beau de 2004. Donc oui, je pense que mais c'est à la fois peut-être ce qui fait aussi la limite du film, c'est-à-dire que cette modestie, on pourrait dire documentaire, sans doute la limite dans l'ordre de l'action, de la dramaturgie du film. C'est-à-dire que si on a pour ambition uniquement de faire un portrait, malgré tout, il faut raconter une histoire. Et donc on est tiraillé. Enfin, en tout cas, en tant que spectateur, j'ai eu l'impression d'être de voir quelqu'un qui, dans l'écriture, était tiraillé entre le portrait et presque le récit à suspense, parce qu'il y a des choses très tragiques qui pourraient arriver, et j'ai eu l'impression qu'elle appliquait à chaque fois une technique de désamorçage. On en reparlera peut-être pour le film suivant, d'ailleurs. C'est plutôt réjouissant quand on a été nourri de Frères d'Ardenne, où il y a des retournements très très forts, des twists moraux et de la rédemption. On est content d'être un petit peu plus relaxé, mais en même temps, c'est vrai qu'à force de désamorcer, on peut se demander... ce qui reste d'intéressant, bah les acteurs, voilà, par exemple.
C'est déjà pas mal. Lucille, oui. Comment votre sentiment sur ce film « Seul à mon mariage » ?
Oui, c'est typiquement le genre de film qui, quand il arrive et quand je lis le synopsis, me fait peur, parce que j'attends justement des enjeux dramatiques énormes qui peuvent un peu écraser tout, et un naturalisme qui conduit forcément à ce que vous disiez, Charlotte, une forme de morale. Là, c'est pas du tout le cas. Je pense que ce qui l'emporte, c'est le personnage, et donc du coup, mais on en parlera aussi, l'actrice et l'acteur, parce que je trouve absolument formidable l'homme qu'elle rencontre. En fait, ça ne se passe jamais comme on peut craindre que ça se passe. Et surtout, ça intervient à tous les niveaux. C'est-à-dire toutes les relations qu'elle entretient avec son entourage, que ce soit juste une personne qu'elle croise dans la rue ou une travailleuse sociale à qui elle demande de l'aide pour remplir des formulaires, jusqu'aux relations les plus complexes et les plus nourries avec son enfant, sa grand-mère dont vous parliez, et puis cet homme qu'elle va rencontrer. Tout ça, en fait, se complexifie à mesure que le film avance, et c'est extrêmement agréable. Du coup, le suspense qu'on craignait, qui est bon, tout le monde va mourir, ça va être l'enfer, se transforme en un autre système.
Ah, c'est la vision
de
Kobo,
type,
ça, vous
voilà.
Voyez. C'est
autre c'est système vie, ça, ça. De type. Alors, comment ça va se complexifier? Comment est-ce que ça va se passer? Mais à une échelle qui est extrêmement différente et assez passionnante, du coup, d'un point de vue de la mise en scène, et surtout d'un point de vue, en effet, du jeu des acteurs. Bon, moi, je suis assez fascinée par cette femme,
Alina Serban.
Voilà, Alina Serban. Parce qu'elle donne au film, son corps en soi est un objet de cinéma assez impressionnant. C'est-à-dire que, où qu'elle soit, elle est une sorte de force absolue qui emporte un peu tout. Par exemple, quand elle arrive dans l'appartement de cet homme qu'elle rencontre sur un site, elle finit par vraiment aller chez lui et vivre dans son appartement. C'est un appartement petit bourgeois, un peu un télo d'un vieux garçon, quoi. Quelqu'un qui a vécu seul longtemps. Alors, il est habitué à ses petits tiroirs avec les épices au bon endroit dans sa cuisine. Et elle dérange un peu ça. Et ce corps-là, dans ces espaces-là... Ça crée un effet dramaturgique qui suffit à faire tenir le film. On n'a pas besoin de misérabilisme, on n'a pas besoin de gros twists dramatiques pour tenir, parce qu'il est assez long, hein, dans mon souvenir, le film.
Deux heures, voilà, pour tenir un petit peu plus. Portrait-là. Et une minute. Mais c'est vrai que par rapport aux surprises et par rapport au corps, quand elle arrive absolument dans l'appartement donc, de son correspondant Skype, l'acteur c'est Tom Vermeer, et il faut le saluer parce que lui aussi il a un sacré corps et une sacrée présence.
Il a pris 25 kilos.
Oui, parce qu'il est jeune en plus, j'ai vu que c'était un rocker, enfin, il est dans un groupe de rock, c'est pas du tout le type de personnage.
Mais alors justement, la première chose qu'elle lui demande à l'arrivée dans l'appartement, c'est où est la télé, donc il dit que c'est con la télé, donc il faut pas la télé, donc il met de la musique, sauf que c'est du gros métal, et elle se sent sans doute, elle a l'air complètement effrayée, elle est formidable, mais elle sent qu'il faut qu'elle danse à ce moment-là, il y a quelque chose de... à la fois très simple, très inattendu. Vraiment, j'étais quand même de surprise en surprise, une sorte de suspense minimal tout du long, en fait. Et c'est ça qui, je trouve, tient le spectateur en haleine. Muriel Jodé, vous vouliez développer, c'est maintenant.
Oui, non, c'est sur justement le contraste entre ces deux corps. Enfin, donc c'est comment il s'appelle l'acteur ?
Tom Vermeer.
Tom Vermeer, je le trouve absolument incroyable. Moi, je le trouve magnifique. Mm. En plus, il a un regard d'une douceur qui d'abord paraît inquiétante. C'est-à-dire que c'est vraiment le célibataire welbeckien qui va trucider.
Potentiellement un psychopathe.
Voilà,
hein,
qui
vraiment
va trucider donc il Pamela.
Nous n'en dirons pas plus.
Et elle a l'idée assez juste quand même de faire en sorte que en fait tout se passe bien en Belgique. Déjà les institutions, tout le monde est gentil avec elle, l'assistante sociale, la policière, les copains de Bruno. Même si on est toujours à la lisière de voilà de.
Ils sont pas super gentils, mais c'est pas si simple en effet.
On croit à chaque fois que le film va basculer dans le drame, que ça va être la galère pour elle, et finalement elle est accueillie, elle est choyée. Alors on peut se dire qu'il y a un discours politique derrière sur la Belgique par opposition à la communauté rom, mais moi je préfère voir la dimension fictionnelle de ça, la confrontation entre un corps clairement pied à la tien. Il y a vraiment l'idée de Sandrine Bonner qui débarque, de Suzanne dans À nos amours, d'un corps très sensuel qui rencontre ce corps complètement fermé et qui va se révéler être mais vraiment un agneau. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et ça passe aussi par la langue. Ça, c'est très beau, la manière dont ils instaurent une sorte de quotidienneté, de conjugalité, sans se comprendre vraiment. Elle parle à peine deux mots. Mais en fait, elle comprend plus qu'elle ne parle le français. Mais ils arrivent quand même à se comprendre. Et ça, c'est beau. Ce qui se passe par le choc entre ces deux corps, entre ces deux langues, c'est ce qui, moi, m'a le plus passionnée dans le film. Parce qu'après, pour moi, il revient dans les clous du portrait de femme, j'en dirais pas plus.
Mais il se rend compte dans une langue qui n'est ni la sienne, ni celle de la femme, ni celle de l'homme, puisqu'il est flamand, donc l'échange est en français, ce qui est évidemment ce terrain de rencontre. Lucille Comeau ?
Non, puis c'est vrai que sur la structure dont vous parliez tout à l'heure, Muriel Joudet, il y a quelque chose d'en effet ternaire, parce qu'à la fin, il y a une retrouvaille, entre guillemets, avec le contexte premier. Et ça, c'est extrêmement subtil, parce que c'est pas du tout facile de revenir, entre guillemets, à un état antérieur de la fiction en ajoutant quelque chose de ce qui s'est passé dans la deuxième partie. Bon, c'est pas du tout clair, en fait, ce que je dis.
Mais c'est mieux, parce que comme ça, les gens qui n'ont pas encore vu le film vont pouvoir le goûter.
Bon. Voilà, non, moi, je la trouve très belle, la fin. J'étais hyper émue, je la trouve très, très belle.
Charlotte Garçon.
Je pense qu'elle arrive quand même à nous émouvoir, même en deçà de la conscience, justement par l'usage des quatre langues dans le film, le roumain, le romani, le flamand et le français, puisque lui étant flamand, on se dit au début, parce qu'elle, elle fantasme sur un français.
Donc
nous, français, on entend de Skype, on se dit, mais ils ont fait jouer ça par un acteur roumain qui parle mal français, qu'est-ce qui se passe?
Oui, parce qu'on ne le voit pas au départ, en plus.
Il y a un problème dans la production du film, et on s'aperçoit en fait que non, qu'effectivement, c'est un flamand... en Belgique, et il y a comme ça des petites choses. Alors, il n'y a pas de commentaire là-dessus, mais je pense que ça passe. Et elle arrive quand même à faire passer des détails comme ça qui nous impactent émotionnellement et qui nuancent l'ensemble, en fait. Un peu comme Tiza Kovi et Rainer Frimmel, vous vous souvenez, ces cinéastes qui filment en Italie. Ces Autrichiens qui avaient filmé ce très beau film avec une petite fille qui ressemble à la Rebecca de ce film-là, qui est la Pivelina. Donc, qui travaille comme ça à la frontière de la fiction et du documentaire dans des communautés un peu marginales. Avec toujours une sorte d'épée de Damoclès dramaturgique, mais qui est toujours nuancée, justement.
Et puis, il y a quelque chose aussi dans le traitement du contexte et des décors qui est vraiment très juste. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de plans larges sur les endroits où on vit. C'est-à-dire que ce village, il est sous la neige, il est quasi abstrait. On passe d'une baraque à une autre, mais on a assez peu de vision globale. De la même manière, la ville belge, elle est traitée vraiment au niveau des personnages. Tout ça, ça va à nouveau, ça travaille contre la tendance naturaliste un peu lourde qui aurait vraiment pu... emporter le film.
Un dernier mot, Muriel Joutet ?
Elle est quand même là pour moi, la tendance naturaliste. Il y a plein de scènes que moi, j'ai oublié, c'est du bon naturaliste. Parce que précisément, c'est vraiment pour moi du pied là. C'est à la fois un peu, il y a un côté documentaire presque ethnologique, et puis en même temps, le côté, voilà, on va capter un dîner, un truc qui se fait naturellement, qui est spontané. Et pour moi, vraiment, le film n'est pas à la hauteur quand il filme ces scènes-là. Quand par exemple, donc Pamela va rencontrer les parents de Bruno, moi, c'est une scène que j'ai presque oublié parce que pour moi, elle ne fait presque plus partie du film, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, et c'est pas là que Martha Bergman. Arrive à être cinéaste, c'est ailleurs. Et pour moi, c'est un peu des scènes convenues, qu'on attend, qui sont un peu là pour remplir le film. Et c'est vrai que peut-être qu'il est un petit peu long.
sur les garçons.
Mais s'il y avait une sorte de conseil international des scénaristes et des réalisateurs, des auteurs, évidemment, il faudrait qu'ils se disent non, mais dans les festivals, il n'y a que des films comme ça, que des portraits de femmes qui s'autonomisent, qui essayent de s'en sortir, etc. Donc, c'est vrai que ces films-là, même quand ils sont très bien faits, très attentifs, très justes, très soignés et ancrés dans du documentaire comme celui-ci, bah,
ils pâtissent quand même de cette surenchère et de ce nombre.
Aussi parce qu'en France, il sort maintenant plus de 800 films par an. Donc on a la chance, mais on a l'inconvénient d'en voir trop, presque.
C'est en effet que tous les clichés là dont on parle et qu'on essaye de dénouer sont en effet extrêmement construits maintenant, parce qu'on en voit tellement, en effet, des films d'émancipation que nous-mêmes, je pense qu'on a construit des structures, des images, des manières de cadrer, enfin jusqu'à très très techniquement, et c'est difficile de s'en détacher, je pense, pour un cinéaste.
Oui, on va voir après « Seul à mon mariage »,« Seul à mon étage hein, », c'est la Camarista. Dans quelques minutes, vous voulez dire un dernier mot?
Non, c'est affolant à quel point c'est devenu un genre, ce truc de la famille. C'est devenu un argument marketing pour les affiches, pour tout. Enfin, moi, je vois voilà, les limites de ça. Ça peut donner des films immenses et ça donne aussi quelque chose qui est presque un cinéma de niche qui est très intéressant. Après, « Seul à mon mariage » arrive quand même à s'émanciper. Oui. De cette émancipation, en fait.
Seul à mon mariage, allez voir ce film de Martha Bergman qui est sorti ce mercredi sur les écrans. C'est l'heure du coup de cœur. Ce soir, c'est Charlotte Garçon qui nous fait entendre pourquoi bat son cœur pour un livre, en l'occurrence, qui s'appelle « Rencontres » au pluriel. Ce sont des textes réunis par Émile Breton d'entretien entre Luce Vigo et les cinéastes. Tout ça paru chez Yellowknow dans la collection Côté Cinéma. Morceau choisi, Charlotte.
Oui, encore une femme libre. Critique et programmatrice, et pas seulement fille de Jean Vigo. Elle avait eu un rapport assez tardif et compliqué avec le cinéma de son père, qu'elle a fini par adorer et très très bien connaître. Et en fait, ce qu'elle préférait dans son activité de critique, c'était les entretiens avec les cinéastes. D'où ce recueil qui est uniquement fait d'entretiens, qui s'appelle Rencontres, et qui met en relief une qualité de la critique qu'on oublie peut-être un peu, qui est l'écoute et la curiosité, et je nous inclus dedans. C'est-à-dire, ça devrait être à la base de notre métier, mais en fait ça requiert une sorte d'hygiène de vie très très rigoureuse pour préserver cette ouverture à la nouveauté, et c'est aussi l'objet du prix Jean Vigo et c'est un livre très accueillant en fait, assez fin, enfin très peu bourratif, et qui est partagé simplement entre deux parties, une qui est ici avec des cinéastes français et une ailleurs, parce que Luce Vigo allait beaucoup dans les festivals et il y a notamment des entretiens avec Manuel de Oliveira par exemple. Elle a rencontré beaucoup de cinéastes de sa génération, donc nés autour de 1930. Et le livre s'ouvre en 68 avec François Truffaut et autour de l'affaire Henri Langlois, le directeur de la Cinémathèque, qui avait été limogé par le ministre de la Culture, Malraux, à l'époque, et qui était très soutenu par la Nouvelle Vague. Et c'est amusant de voir que face à cette critique qui écrivait pour des hebdomadaires communistes, des magazines communistes, donc qui étaient estampillés communistes, en fait, les cinéastes, que ce soit René, Truffaut, n'ont absolument aucune honte à lui dire que eux ils sont désengagés, parce que c'est pas la politique qui est au centre de leur voilà, ils se sentent pas du tout contraints et ils évoquent plutôt leur lien à l'argent. Philippe Garrel, Alain Cavalier, Jacques Rosier parlent de l'économie extrêmement parcimonieuse dans laquelle ils tentent de travailler, et il faut vraiment le lire parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Ils sont encore vivants et ils ont encore du mal à faire des films. Mais ce qui est savoureux aussi dans ce livre, c'est que la modestie personnelle de Luce Vigo déteint sur les interviewés. Et il y a un entretien avec Chabrol qui est notamment très drôle, qui explique qu'il a aucun ego, qu'on peut le massacrer, le tourner en dérision, il s'en fout complètement. Et en fait, on a l'impression qu'elle crée une sorte de familiarité. Et du coup, ils parlent de leur ratage. J'ai jamais vu en fait autant d'entretiens où des très grands cinéastes évoquent de manière assez détendue, par exemple Rivette qui dit ce qu'il aurait voulu faire dans La Religieuse et qui n'est pas parvenu à faire, ou bien Philippe Garrel qui dit « À force de faire des choses qui ne concernaient que moi dans les années 70, je me suis perdue en m'enfonçant de plus en plus dans un hermétisme poétique. » Donc on est vraiment dans l'anti-promotion totale, et je pense que c'est dû à Luce Vigo qui crée cette intimité-là. Et elle recueille aussi l'étincelle de désir qui a donné l'envie à un cinéaste de faire tel ou tel film. Et c'est parfois quelque chose de très inavouable parce que c'est complètement ténu et personnel. Et je voudrais finir là-dessus puisque je pense que certains auditeurs, si on en a, et je pense qu'on nous...
A priori de plus en plus.
Voilà, donc, merci. Nous écoutent peut-être dans un train. Donc je voudrais finir par deux épiphanies qui ont informé la mise en scène de film. D'abord les fondus au noir du film d'Alain Cavalier, Thérèse. Qu'il fait non pas en post-production mais sur le plateau, il éteint la lumière progressivement et il dit voilà pourquoi, c'est que quand je voyage en train, je ferme les yeux, je les ouvre tout d'un coup, le paysage change, on fonctionne un peu dans la vie par pan visuel. Et puis une épiphanie de Jacques Rosier, j'ai dû prendre le Maine Océan, le train, donc, vers 6h du soir, à l'heure où le soleil traverse presque horizontalement le compartiment quand on va vers l'ouest. J'ai ressenti une espèce de choc et je me suis dit, je veux faire un film qui s'appelle Maine Océan.
Tout ça, c'est dans Rencontre, tout ça et beaucoup d'autres choses. Donc des textes réunis par Émile Breton, ces entretiens de Luce Vigo avec de nombreux cinéastes d'ici. Et d'ailleurs, tout ça publié dans l'excellente maison Yellow Now.
France Culture, La Dispute. Arne Laporte.
Le dernier film à notre affiche, c'est La Camarista de Lina Aviles. Lina Aviles qui a d'abord été comédienne avant de devenir rapidement metteuse en scène pour le théâtre et l'opéra. La Camarista, ça a d'ailleurs été d'abord une pièce de théâtre écrite par Aviles qu'elle a adaptée pour le cinéma. Il s'agit là encore, comme les autres films de notre sommaire, d'une première, hein, puisque c'est son premier long métrage de fiction. Premier sentiment là aussi sur ce film, Charlotte Garçon.
Bon, j'allais dire room service, mais la routine déroutée.
Lucille Comeau, par exemple, le téléphone de Marie-Louise Delson.
Moi, c'est un film qui m'a plutôt intéressée, qui tient, je trouve, un bon équilibre entre le film très cérébral, film à dispositif, et la chronique sociale plus charnelle, plus engagée.
Et Marie-Louise Jodet.
Moi, c'est un cocon climatisé. Voilà.
Cocon climatisé. Oui, Lucille Comeau, alors, quoi. Pour éclairer ses premières phrases, le point de départ scénaristique de ce film, La Camarista.
Oui, alors vous le disiez, la cinéaste est quelqu'un qui vient du théâtre et elle a adapté cette pièce de théâtre selon les principes d'une artiste française qui est Sophie Calle, dont elle a lu un livre qui s'appelle Hôtel. Et Sophie Calle, elle s'était fait engager comme femme de chambre dans un hôtel à Venise et elle avait pris en photo pendant son travail, selon une logique un peu d'espionne, des objets, des lieux et des personnages, je crois, même si je me souviens bien. Et on avait fait un livre, et donc ce biais voyeuriste est le biais utilisé par la cinéaste pour le film, et donc ce personnage qui navigue, entre guillemets, de chambre en chambre, on ne quitte absolument jamais cet hôtel, et qui rencontre des personnages qu'elle re-rencontre, et éventuellement, selon une logique aussi, un peu, pour le coup, c'est drôle, parce qu'il y a des rapports avec le premier film dont on a parlé, et avec le second, de galerie.
Me llamo Eve. Tengo 24 años y soy camarista.
¿Y has leído algún otro libro?
No.
¿Cuánto es 3/4 de kilo?
750 gramos.
Eso es, sí, muy bien, Eve.
No, sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. ¡Sí, te siento!
Encore une fois, une musique dans l'abondance qui n'est pas dans le film. Un film très silencieux. Muriel Joudet, c'est un de ses partis pris. Mais quels sont les autres partis pris de Lina Aviles, metteur en scène pour La Camarista?
Oui, déjà, c'est vrai qu'il y a dans mon souvenir, il n'y a pas du tout de musique. Et donc la bande-annonce essaye de dramatiser quelque chose qui n'est pas dans le film, parce que précisément, l'idée est de sortir d'un point de vue qui pourrait être misérabiliste. C'est-à-dire qu'on imagine très bien le film que ça aurait pu être, et en fait, qui n'existe pas. Et du point de vue de la mise en scène, on peut en parler, parce qu'elle est assez homogène, en fait. Mmh. C'est beaucoup de plans fixes, large, et Lila Avilés va vraiment jouer sur le décor de la chambre, c'est-à-dire les meubles, le lit, pour faire des surcadrages. Donc il y aura beaucoup de fenêtres, le cadre des fenêtres, le cadre des baignoires. Pour moi, la mise en scène est un peu systématique de ce point de vue-là, ou alors elle va jouer sur le côté gauche et le côté droit de l'écran, il va se passer un truc à gauche et pas à droite, sur la profondeur de champ. Pour moi, ça donne à la fois quelque chose qui est de l'ordre du cocon, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais Mexico, qui n'est qu'un horizon.
À travers les baies vitrées.
Voilà, une toile de fond donc, qu'on imagine être tout l'opposé de cet hôtel, c'est-à-dire violent, électrique. Voilà, c'est un peu l'époque de dehors. Et puis à l'intérieur, ça va être les piles de linge, une sorte. On imagine bien l'odeur du linge propre. Donc il y a ce côté aseptisé, cocon et en même temps prison. Pour la Camarista, et on va jamais en sortir, hein, je vais pas raconter la fin, mais il y a vraiment l'idée que la caméra ne sortira jamais de cet hôtel et que finalement il y aura presque un film qui va se créer hors champ sur Mexico, par exemple les coups de téléphone que la Camarista va passer. Donc ce hors champ va travailler tout le film et va finir par être présent, mais il me semble quand même que cette mise en scène un peu aseptisée, un peu vitrifiée est un peu systématique et déjà vue aussi.
Charlotte Garçon.
Oui, c'est cet hôtel, je crois que c'est l'hôtel Presidente, c'est un peu...
Que vous connaissez bien.
Bien sûr.
Vous avez vos habitudes, je crois, au 42e étage.
Justement, c'est un peu métropolis, si vous voulez. La buanderie est au sous-sol. Plus on monte et plus les étages sont luxueux, jusqu'à ce fameux 42e qui vient d'ouvrir et donc qu'on découvrira vers la fin du film et qui sera parcouru par cette camériste, non, cette femme de chambre qui ne rêve que d'être nommée là-bas, parce que plus il faut monter, voilà. Donc on commence, j'imagine, au premier étage, on commence sa carrière au premier étage, et si on donne des heures supplémentaires, etc., on arrive en haut. Tout ça est, on voit bien, même ça, c'est un petit peu schématique, effectivement. Moi, je suis pas entièrement sûre que la greffe entre une expérience singulière artistique, bah, comme celle de Sophie Calle, qui travaille toujours le rapport entre l'intime et puis l'anonymat quand même, parce que c'est jamais l'intimité d'une personne qui a une identité quand elle travaille, dans mon souvenir.
Elle travaille le romanesque aussi, voilà. Quand même.
Le romanesque, alors l'hôtel a priori, c'est justement le point de jonction entre le film social, la condition des femmes de chambre, surtout au Mexique ou en Amérique du Sud, et le côté beaucoup plus artistique. L'hôtel serait le point de jonction puisque c'est plein de petites boîtes, chaque chambre est une sorte de promesse de romanesque. Et en réalité, là encore, c'est un film dont le scénario travaille par déception programmée, par déceptivité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on voit même des choses, des gestes, on essaye de comprendre ce qu'elle fabrique, qu'est-ce qu'elle est en train de faire quand elle fouille dans une poubelle, qu'est-ce qu'elle en tire. Et puis finalement, c'est un objet qui en lui-même n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'en fait, elle bouleverse la durée, qui est une durée de travail contrainte qui lui est imposée, et tout à coup, elle crée de la lenteur. Sauf que le film ne montre que les moments où elle crée de la lenteur, quasiment. Et du coup, du point de vue social, on est déçu parce qu'on n'a pas le vrai rythme infernal qui est celui de toute personne qui doit faire un certain nombre de chambres en un certain temps. Et ça, on le connaît parce qu'on connaît des documentaires et on sait que c'est horrible, y compris dans d'autres pays, sans le nommer la France. Et donc, on a cette femme qui arrive à tordre la durée, mais à tel point qu'on se dit, on sort de tout réalisme. Donc, il me semble quand même que c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'est ni dans véritablement l'expérience artistique, singulière, radicale, ni dans un propos social qui serait fort. Mais c'est quand même pas inintéressant.
Lucille Como, sur la Camarista.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Charlotte. En fait, quand on lit même la manière dont Lila Avilés parle de son film, on se rend très bien compte qu'elle avait donc cette idée qui était tirée du livre de Sophie Calle, donc qui était quelque chose de très théorique, de très intellectuel, et que en travaillant dans l'hôtel, elle s'est rendue compte, bon, après avec toutes les limites que ce discours-là peut avoir, des conditions de travail, en effet, des femmes de chambre, et à quel point... Moi, ça me surprend même.
C'est quand même un peu bizarre de se rendre compte.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais justement, il y a une forme de naïveté qu'on sent dans la manière dont elle aborde la question du travail. Et jusque même, je vous trouve sévère, dans la question du travail bien fait, parce qu'il y a quand même toute une partie du film, le début, où on voit cette femme qui veut bien faire. Et donc, il y a quand même pas mal de scènes qui sont, moi, je trouve,
assez convaincante où on voit qu'elle veut vraiment bien faire les lits. En effet, on sent presque l'odeur de la
blanchisserie. Il y a les techniques qu'on a retenues. Hein.
Voilà, exactement. Et ça, je trouve ça assez intéressant, même de naïveté de ce qu'on peut être imaginé être une intellectuelle mexicaine qui s'empare d'un sujet dont elle découvre presque par inadvertance que oui, c'est un sujet aussi social. Mais je trouve ça presque assez intéressant de voir ça dans un film. Je pense que c'est pas fait exprès, mais je trouve ça intéressant.
Après, ça dépend de l'expérience de chacun. Moi, ma grand-mère, quand on séjournait à l'hôtel, elle rangeait, elle nettoyait tout parce qu'elle pensait justement à la femme de chambre. Donc, voilà, c'est vrai que...
Je suis horrifié dans le film quand on voit des chambres mal, complètement laissées, vraiment dévastées, en se disant « et la femme de chambre va passer, comme vous ».
Non, mais c'est vraiment, film de bourgeois. C'est un film de bourgeoise sur la condition des femmes de chambre mexicaines.
Il y a ça, mais il y a quand même aussi, moi j'étais très sensible à la retenue du film, une sorte de pudeur assez extrême, le fait est. La dimension de huis clos est évidemment importante. Les rapports de classe à l'intérieur même du personnel, ils sont quand même aussi dépeints. On n'en a pas parlé. Je trouve que ça, c'est quand même intéressant. Hein, effectivement, c'est l'ascension vers le 42e étage, mais il y a des choses qui se jouent, y compris dans des sortes de cours du soir dispensés à l'intérieur même de l'hôtel. Et puis, on n'a pas cité son nom, c'est Gabriela Cartol, qui est l'interprète de la camarista. Et moi, j'aime bien son quasi-mutisme, et je trouve qu'il y a quelque chose dans son regard qui est très intriguant. Parce qu'en fait, on se demande, mais oui, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle pense, quel est son objectif? Les choses sont pas claires. Et puis, vous parlez d'épiphanie pour Luz Vigo. Quand enfin elle sourit, je ne dirais pas à quel moment, c'est une épiphanie. C'est vraiment un événement. Et c'est quand même beau, un film qui fait du sourire de son interprète principal un événement.
Je l'avais pas remarqué.
Moi non plus.
C'est vrai?
Non.
Moi, justement,
vous vous en souvenez maintenant ou pas?
Non, pas du tout. Pour moi, c'est un film justement sans épiphanie. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est Charlotte un peu comme dans Seul à mon mariage. Dans les rares moments de dramatisation possible, il y a un moment de confrontation avec la hiérarchie qui pourrait être un moment de violence. Et il y a aussi un moment qui pourrait être un moment érotique. Tout est totalement désamorcé. Bah, pour moi, ça fonctionne un peu comme ça.
Mais vous l'avez oublié.
Ah, moi, je m'en souviens Charlotte pas du tout.
Oui, fou rire sous la torture électrique. Mais... Non, mais alors je suis d'accord que... Alors là, c'est le lien, c'est vrai, avec les expériences de Sophie Calle. C'est comment habiter un espace public quand Sophie Calle customise des cabines téléphoniques ou des choses comme ça pour en faire un espace à elle. Là, on peut dire que la femme de chambre, en s'arrêtant dans une chambre, en s'asseyant sur le lit au lieu de simplement faire le lit, elle arrive quand même un peu à habiter très très momentanément et furtivement ces endroits. Or, on sait justement que le logement est un problème puisqu'on comprend au début que chez elle, elle n'a pas de douche, que c'est pour ça qu'elle se douche là-bas, que c'est très loin, que le dernier bus passe très tôt, etc. Donc ça, c'est assez beau, cette possibilité d'habiter ces endroits d'emprunt. Mais c'est esquissé parce que se surimpose à tout ça une sorte de psychologie quand même qui est que cette femme a quand même très très peur des contacts humains en général et sociaux, amicaux, amoureux. Donc tout ça est un peu superposé, ça fait beaucoup pour un seul film.
Bon, c'est subtil, moi, pour la version positive, c'est la subtilité, la finesse.
Ou complexé. Moi, je le vois comme un film complexé par son sujet, et ça peut donner des résultats intéressants, vraiment, mais dans un second temps. Mais il y a quand même une gêne, je pense.
Muriel Jodet ?
C'est vrai que le film, c'est une sorte de genre en soi, de sous-radicalité ou de demi-radicalité. C'est-à-dire qu'on a des scénettes comme ça. Enfin, il y a vraiment l'idée d'une chambre, une micro-fiction. Et puis, à l'intérieur, ça va être une rencontre, un hasard, un incident. Tout ça va vers nulle part. Donc, il y a vraiment aussi la volonté de ne pas non plus aller vers la narration linéaire.
Il y a DSK.
Donc, moi, vraiment, à force de pudeur, le film devient fade.
Ouais.
Pudeur, fadeur, c'est parfois la même chose.
Bah, elle fait exprès. Enfin, il y a une situation. C'est vraiment DSK.
Ouais, mais j'ai pas du tout pensé
à
ça,
oui.
Ça,
si, évidemment. Bien sûr. Non, mais il se passe plein de choses. Non, vous n'étiez pas très présente pour la projection.
Si, moi, j'adore juste voir les gens qui nettoient des choses.
Oui, moi aussi.
J'aime
le geste,
quoi.
Le geste technique au cinéma. Ouais.
Ça me va très bien. Des coussins comme ça repassés avec les mains, c'était la plus belle scène du film, en fait.
Bon, ouais, vous voulez une bonne critique de Muriel Jodet, amie cinéaste qui nous écoutez, faites des films de 5 heures où les gens nettoient des choses.
Ah oui, et plient et tout ça, enfin, range.
Bon, d'accord. Sinon, il y a Marie Kondo sur Netflix. Mais
je connais.
C'est votre obsession, non?
Mais ça fait... Chez moi, c'est le bordel. C'est pour ça que j'aime voir ça au cinéma, je pense.
Ça fait aussi penser à Roma. Quand même. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi ça, s'intéresser aux détails de la vie de gens qui sont des cases sociologiques. Ça réussit sous cet aspect-là aussi.
Bon, vous et moi, Charlotte Garçon, nous conseillons quand même plutôt fortement d'aller voir La Camarista, Lucille Como.
Ah non, moi aussi.
Moi, je dis non.
Franchement,
pas trop.
Pas, non, pas,
Pas trop.
Je sais pas.
Ça fait 75%, remarquez. Donc,
non, vraiment, je sais pas si je conseille ce film. Je ne sais vraiment pas. Voilà.
La Camarista, conseillé à 75% sur cette table. C'est un film de Lila Aviles qui est sorti mercredi sur les écrans. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Joséphine Dumoulin rejoint notre table pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse. Joséphine.
La question était quel homme de l'être humain est mort alors qu'il observait l'éruption du Vésuve, et la réponse était Pline l'Ancien.
C'est pas très malin d'aller regarder de si près. Mais bon, on fait gagner ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Cécile Cohen?
C'est pas mal en même temps.
Comme mort?
Bah ouais.
D'accord, bon. Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition du photographe Alex Majoli, Seine, une exposition dont on a déjà parlé dans la dispute. L'exposition à découvrir jusqu'au 28 avril seulement, donc il faut se dépêcher de gagner ses places. C'est au BAN à Paris. Quelle est la question?
Dans quel pays Alex Majoli a-t-il commencé sa carrière de photojournaliste?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Joséphine Dumoulin. À la prise de son, Nadège, Antonini, Pierrick Charles et Philippe Thibault. Réalisation Alexandre Fougeron. Les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve bien sûr lundi à 19h pour une dispute consacrée cette fois au spectacle vivant. J'aurai la joie d'être en compagnie de Lucille Como, Fabienne Pascaud et Jean-Christophe Briançon. Nous parlerons de Ça ira un fin de Louis, de Joël Pommerat, en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin, Tressautin ou Les femmes savantes, d'après Molière, mise en scène Macha Makaïef, en ce moment à la Scala Paris, Le voyage de G. Mastorna, d'après Federico Fellini, mise en scène Marie Raymond à la Comédie Française, Au vieux Colombier.